littérature, cinéma, musique, art plastique, poésie, théâtre, bande dessinée, tous les arts en leur droit dans la République des Arts. Rendez-vous du dimanche au mercredi de 16h à 17h dans la République des Arts. Émission présentée par Soraya Ayed et réalisée par Adrani Boudriès.
Bonjour et bienvenue dans la République des Arts. Nous sommes aujourd'hui mardi, c'est une journée chômée et payée. Vous êtes pratiquement tous au repos, sauf ceux qui ont sont astreintes et assurent le service public. Donc bonne fête à tous à l'occasion de Awwal Muharram. J'espère que vous avez passé une excellente journée en compagnie de votre famille. C'est souvent l'occasion. Les fêtes religieuses, on les passe en famille. D'ailleurs, à ce propos, puisque nous sommes ensemble et nous vous accompagnons aujourd'hui jusqu'à 17h, la République des Arts s'offre un peu de poésie, parce que la poésie est nécessaire à dans notre vie. Nous vous offrons justement les paroles sages et belles d'une poétesse qui ne cesse de se distinguer par sa grande production, même si elle a mis beaucoup de temps à se décider à publier. Kiltoum Defous est notre invitée. Avec elle, nous évoquerons le rôle et la place de la poésie dans sa vie, de sa tardive apparition dans l'espace public. Évidemment, après une vie bien remplie d'ailleurs d'enseignante, de maman et de chef d'entreprise. Elle a eu beaucoup de prix depuis qu'elle a commencé à publier. C'est pour ça que je vous ai dit, elle s'est distinguée un peu tardivement, mais elle s'est distinguée quand même. Premier prix, Blaise Sandrard, section francophonie en 2017. Elle a eu le prix spécial de la paix à Narbonne dans ses joutes des Jeux floraux méditerranéens en 2017 également. Le Géné d'or à Perpignan de la poésie en 2018. Et le mois d'août dernier, le prix spécial de la francophonie de Lama Vika. Voilà, Kiltoum Defous donc va nous accompagner. Je ne sais pas si elle a choisi de nous parler en prose ou en vers, mais vous allez voir, elle a plutôt tendance à parler en vers. Mais elle nous accompagnera aussi pour découvrir des jeunes d'une association, la Grande Maison de Tlemcen, qui sont très très actifs sur le plan culturel, mais également avec un ciné-club, des gens que nous avons rencontrés à Béjaïa. Et puis vous retrouverez Linda Tebaili qui nous parlera dans sa rubrique patrimoine d'une kabila de la région du Warsenis, les Meknassa.
La République des Arts.
Kiltoum Defous, bonjour et bienvenue.
Soraya, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de la radio chaîne 3. Voilà.
Voilà. Ben en tout cas, on est très très heureux que vous soyez avec nous, Kiltoum. Ça fait un petit moment qu'on se croise et qu'on s'est promis de faire une très très belle émission sur la poésie, puisque la poésie, je disais, on va essayer de comprendre pourquoi la poésie est si importante pour vous, mais pourquoi surtout vous avez mis autant de temps à publier vos œuvres, hein, qui sont très nombreuses. La colline des rois berbères, fleuve du paradis, la femme à la ceinture de laine, rêve de toute femme, grain de sable, pauvre petit frère et le dernier, voix de femme. Voilà, c'est des recueils de poésie qui évidemment sont disponibles dans toutes les librairies. Alors, Kiltoum Defous, est-ce que très tôt, depuis très longtemps, vous avez toujours su qu'il y avait un peu le souffle de la poésie en vous?
Alors, comment dirais-je? Je commence d'abord par me présenter aux auditeurs. Kiltoum Defous. Mais comment me présenter ma grande inquiétude?
Mais non, ne vous inquiétez pas, vous avez une heure justement pour faire connaissance, pour qu'on vous connaisse un peu mieux. Mais déjà, par exemple, la poésie, c'est quelque chose qui vous a toujours habité, ou alors c'est tardivement, un jour, vous êtes mise à écrire?
Non. La poésie m'habite depuis ma naissance, je pense. Parce que dès que je fais ma rentrée scolaire, j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, et j'ai appris à écrire hors sujet, sur les marges de mes cahiers. Et mes instituteurs et mes institutrices artistes l'ont remarqué très tôt. On me demande une rédaction, j'écris, mais je continuais à rêver, à écrire, et on me dit « Quel ton vous écrivez si bien, mais vous êtes hors sujet ?» Mais je ne savais pas que j'avais besoin d'exprimer cette poésie qui m'habite et qui m'a toujours habité.
Alors justement, la poésie, elle est en vous parce que vous avez vécu sur une petite colline, dans un petit village. Vous-même, hein, vous en êtes fière, vous dites « Je suis issue d'une famille de paysans, des petits propriétaires terriens, dans une village entre Boharoun
et Bni Haroun, à côté du barrage de Bni Haroun, sur une de ces collines. D'ailleurs, c'est ce qui m'a inspirée à écrire mon premier recueil de poésie. C'est ça. La colline des rois berbères, c'est le titre justement de ce premier recueil, et dans lequel je parle de mes ancêtres, de mon hameau, de mon petit village.
Le Mhassniya,
c'est ça. Alors, comment me présenter? Moi qui suis une fille de la terre, parce que je suis une petite paysanne, et quand on est dans un petit milieu comme ça, on n'appartient pas à ses parents. On appartient à toute une tribu. Et donc, quand je parle de toute ma famille, de toutes mes grands-mères, de tous mes grands-parents avec lesquels j'ai vécu. Et donc, je voulais rendre hommage à mes grands-parents qui ont tous été décimés un 2 juillet 56 par l'arme coloniale. Et donc, j'ai vécu parmi les femmes. Et donc, ma poésie, c'est le porte-parole de toutes les femmes. Tous les hommes, 26 hommes ont été fusillés le jour même. Et donc, c'est une blessure que je porte en moi, et je me dis toujours que je suis une balle perdue. Voilà.
Est-ce que c'est un événement marquant dans votre esprit, dans votre mémoire, cette soudaine disparition des hommes du village?
Oui, j'étais trop petite, je me rappelle pas, mais quand on me l'a raconté, j'ai été marquée. Je savais que je portais en moi cette responsabilité, celle de faire parler mes aînés, de faire parler mes grands-mères, de porter en moi ce défi, cette force qui est en moi, cette petite flamme qui me pousse à écrire, à dénoncer, à travailler pour la paix, à écrire pour la paix, pour le droit des femmes. Et donc, ce sont les thèmes qui prédominent dans ma poésie.
Les femmes,
le droit des femmes. Et j'ai traité de tous les thèmes, même les sujets tabous. La paysannerie algérienne. J'ai parlé de l'artisanat algérien. J'ai parlé de... je n'ai pas honte de dire que j'ai gardé les chevreaux quand j'étais tout enfant. Je laissais mes chevreaux dans la montagne, dans ma forêt, la forêt de mes grands-parents. Je traversais tous les champs, tous les jours, au quotidien, 15 kilomètres pour arriver à l'école.
Alors justement, c'est la rentrée scolaire. Vos souvenirs de la rentrée scolaire, c'était ces 15 kilomètres
C'était 15 kilomètres que je faisais à travers les champs de mes parents, et la boue qui absorbait cette petite fille, mais qui était enflammée, qui voulait apprendre à lire et écrire.
Mais on vous a quand même poussé, les femmes de votre famille, puisque vous avez vécu contre femmes, vos grands-mères, vos grands-tantes, etc. Elles voulaient que vous alliez
à l'école. Oui, tout à fait. Justement, c'était ça. Elles nous poussaient à nous dire, nous étions privés de l'école, on ne savait pas lire et écrire pendant la colonisation. Mais vous, l'indépendance est là. Apprenez à lire et écrire. Prenez votre courage et montrez-vous de quoi vous êtes capable. Nous, on a libéré le pays. À vous de le libérer autrement.
Alors, quel tome de fausse, cette petite fille qui allait à l'école ne savait pas plus tard qu'elle irait à l'université, qu'elle irait dans un grand lycée à Constantine, d'abord avant l'université. Et ça a été un peu le dépaysement pour vous, Constantine.
Autrefois, il y avait...
Ça vous a appris qui vous êtes aussi.
Oui. Autrefois, il n'y avait pas de lycée dans les petits patelins, dans les wilayats, dans les daïras. Donc, on se déplaçait tous au lycée mythique, l'Hurriya, lycée Lavran. Et donc, je suis passée au lycée l'Hurriya après mes études, en internat. Et c'est là où j'ai appris qui je suis. Je vais vous raconter une anecdote, peut-être que ça va vous faire rire. On était en rangée pour monter en études, et dans les rangées, il y avait deux filles qui étaient du côté de Guelma ou de Wedzneti. Donc elles parlaient un autre dialecte. Et moi, je leur parlais, et elles étaient en train de rire. Et elles me disaient « Ah, tu es kabyle ». Je leur dis « Mais non, je suis algérienne, je viens d'une région de Guelma, où il y a 2000 ans. Mais non, mais tu parles kabyle », je leur disais. Enfin, c'est un dialecte de ma région. Je savais pas, parce que nos parents nous apprenait à être algérien, sans pour autant chercher à comprendre si on est chaoui, on est kabyle, on est mozabite, on est des algériennes. On avait l'Algérie sur les bras. on était des femmes et il fallait apprendre à lire et à écrire, à savoir lire les lettres. Moi, j'ai appris à lire les lettres de nos immigrés, des hommes immigrés. Donc, pour mes tantes et tout ça, j'essayais de déchiffrer déjà en deuxième année primaire. Je faisais l'effort de déchiffrer une lettre en français.
Et c'est comme ça que vous avez appris qu'en fait, votre famille venait de loin, venait d'un,
oui,
d'une autre...
C'est ça.
De la région de
la GIA, de Sourkel Tnine, entre Sourkel Tnine et donc Béjaïa et Jijel. Et c'est là où j'ai appris que mes parents sont venus de là-bas. Mes grands-parents sont d'origine de là-bas. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris mon identité. D'ailleurs, mon identité, je la porte en mon prénom. Hein. Je suis en train de balancer entre le gue, le que et le je. Mm-hmm. Parce que je m'appelle Kiltsouma Constantine, Giltsoum dans mon petit patelin et Iltsoum du côté de Bougie. Donc, j'ai trois prénoms en même temps. Trois façons de prononcer mon prénom.
Et ben voilà, Kiltsoum de Foussan, on sait un peu plus sur vous, sur cette enfance passée dans ce petit village, le Mhassnia, ici d'une famille évidemment de combattants, puisque tous les hommes de votre famille ont été pratiquement fusillés le même jour. Et vous avez grandi parmi les femmes, ce qui n'est pas rien. Ce sont des femmes qui vous ont appris ce que c'est la force, ce que c'est que la liberté.
Thoria, mon combat de femme, je le vis. Et je peux conjuguer tous les verbes qui existent en langue française après ce combat. Parce que ce combat de femme, je le vis, je l'écris, je le crie avec eux à la fin. Je le sais, je le subis, je le sens, je le sais, je voudrais juste corriger une notion de combat. Parce qu'en Algérie, quand une femme parle de combat, il y a un petit non-sens, une petite nuance. Parce que quand il s'agit d'un homme qui dit combat, on le comprend, courage, bravoure, honnêteté, amour du pays, mais quand il s'agit d'une femme qui dit je suis combative, je combats, je lutte, on le prend un petit peu du côté arrogance, du petit peu manque de pudeur,
féminisme. Elle veut être libre,
c'est ça.
Comme les occidentales.
Bravo. Donc tu comprends? Donc mon combat, je voudrais quand même qu'il soit bien saisi par nos compatriotes. Je défends les droits des femmes tout en gardant notre dignité d'Algérienne, toute notre pudeur, nos traditions, nos valeurs, ils sont à respecter. Donc, c'est ce que je voulais soulever à partir de ce combat-là.
Alors, Kiltsoum de Fouss, de ce lycée d'El Hurria, évidemment, vous avez fait des études tout à fait respectables et vous avez eu votre bac, vous avez été à l'université, vous avez fait des études en lettres, des lettres françaises.
Oui, j'ai eu mon bac lettres en 78 et puis j'ai entamé mes études universitaires à l'université de Constantine, littérature française. Et donc j'ai eu ma licence de littérature française et puis moi je me dis que je change beaucoup de métier. Peut-être que c'est de la nature, de la folie du poète, parce que l'écrivain, le poète fouille toujours sa personne, c'est-à-dire qu'on essaie à chaque fois de découvrir l'autre. J'ai été transmetteuse de valeurs de langue française, de littérature française dans un lycée de jeunes filles pendant 20 ans au plus. Et après, j'ai changé complètement de métier. Je suis devenue chef d'entreprise. Je gère une entreprise. J'ai du personnel. J'ai des filles, des femmes. J'ai des hommes à gérer. Et je continue maintenant à écrire. Et c'est là où vous venez de me dire ma venue tardive à la littérature, parce que j'ai pas eu le temps. Je suis maman de 4 enfants. Il fallait s'occuper de leur éducation, de leurs études. Et puis, la femme algérienne, elle a son côté sacrifice. Elle essaye toujours de se mettre comme échelle pour que ses enfants montent d'abord, arrivent à leurs études, et elle est toujours la dernière à être servie par la vie.
Vous avez tu un peu cette fibre poétique
Oui, je crois que cette fibre poétique m'a toujours habitée, et j'ai toujours écrit, mais je n'ai pas édité. Parce que quand on écrit, j'écris toujours, et je laisse de côté, je me dis peut-être qu'un jour, j'aurai le temps, et j'aurai le temps de les éditer. Alhamdoulilah, j'ai eu ce temps-là. J'ai pas été égoïste.
Votre première publication, c'est...
Elle a été en 2014, La Colline des Rois Berbères à Paris, et puis après Pauvre Petit Frère.
Qui vous a encouragé justement à publier?
Franchement, oui. Ce sont mes enfants. Mes enfants ont vu que j'écrivais, et puis mes amis sur Facebook que je tiens à saluer, parce que j'ai plein d'amis que j'aime beaucoup et qui sont considérés comme des membres de ma famille, qui m'ont encouragé à éditer.
Vous restez avec nous quelques temps de fous. Nous allons passer presque une heure ensemble jusqu'à 17h. On va découvrir votre poésie parce qu'on va aussi tout à l'heure parler de l'importance des réseaux sociaux parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de poètes ou poétesses ou d'écrivains ou même d'artistes ont existé grâce justement
aux réseaux sociaux et à Facebook. Moi, voilà. J'ai plein d'amis Facebook.
Allez, une petite pause et on se retrouve juste après.
La République des Arts sur LGC3 avec Tola Yarrière.
صلاتي جات قائما الذي يصحاب عشرا والذي يصحاب عشرا زين البشرى يا شفيعنا يوم العسرى يا حبيبي طاغى يا شربا من حوضك نبرا
de fous dans la République des Arts pour la première fois, mais pas pour la première fois à la chaîne 3, parce que vous avez déjà été invité par
Par Kerim Amiti et par
Youssef Seyah. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est avec très très grand plaisir. Votre sourire, c'est quelque chose de très réconfortant, mais votre poésie est réconfortante. D'ailleurs, dans ce recueil, Le Dernier Voix des Femmes, que vous partagez avec Nadia Belkacemi, hein, qui est une jeune poétesse oui. Née à Constantine également, il y a quelques vers que je voudrais, avant que vous lisiez le poème, parce qu'il n'y a pas la meilleure façon de vous découvrir, je crois que c'est de vous écouter, lire votre poésie. J'ai tressé mes nattes blanches au destin, ma ceinture autour des hanches au déclin, en murmurant mon chant venu de très loin. Dieu, est-ce le début d'une vie ou bien la fin? C'est joli ça.
Ah oui?
Oui, c'est très joli.
Dans ma poésie, je m'interroge toujours. C'est une recherche, une quête qui n'est pas terminée. D'ailleurs, je porte cette quête même au niveau de mon prénom, de mon identité. Si vous permettez, je lis tout de suite un petit poème qui parle de gueux, de queue, de cette pluralité linguistique en Algérie. C'est une richesse
consonne,
avec laquelle on doit vanter normalement. Voilà, Giltum l'insoumise. Alors, je m'appelle donc Giltum ou Kiltum, mais je suis insoumise quand même. L'écriture, mon arme face à mon trépas. Fallait-il crier enfin mes grands silences? Fallait-il les hurler, pleurer mes très bas? Fallait-il me soumettre à leur sentence? Et voilà, je me suis levée un bon matin en me donnant un prénom qui sonne faux. Pas grave pour une fille, presque rien. Des misères comme moi, il y en a des lots. Un gueux qui n'existe pas dans mon arabité. Un cas qui n'est pas moi dans mon amésirité. Je traîne trois lettres. Un que, un gueux, un yeux. Mes difficultés, elles sont bien écrites sur ma carte d'identité. Hélas, ma naissance était aussi par jugement. J'aurais aimé avoir un vrai anniversaire un jour. J'en ai eu deux. Un qui dit vrai, un autre qui ment. Pour une enfant qui ne vient guère par amour, on me dit que je suis arrivée en plein abattage. La moisson, cet été-là, était guerre et carnage. Interdit aux paysans de se rendre au village. On a préféré novembre pour annoncer mon âge. Même mes chiffres, jamais gagné en loto. Un 26 inventé ou choisi une fin de mois, début de ma vie, de ma peur, de mes émois, au milieu d'une guerre, le géniteur au cachot, là agit l'histoire improvisée de ma petite fille. Ni sa date de naissance, ni le nom de sa famille, tout d'elle est en double, en triple. Rien n'a suffi pour ce petit rien et qui parle d'une tribu de toute sa vie.
Voilà. Giltum Defus, c'était le titre de ce poème, c'est
Giltum l'insoumise.
Alors on s'est arrêté tout à l'heure. Justement, vous avez publié sur insistance de vos enfants qui lisaient déjà votre poésie ou qui l'ont découvert eux aussi un peu par hasard?
Non, ils l'ont découverte par hasard parce que je commençais avec l'avènement Facebook, réseaux sociaux. Alors ma fille m'a aidée à faire un compte Facebook et je commençais à partager ma poésie. Et c'est là qu'ils ont remarqué que j'écris bien. Ils m'ont dit, maman, pourquoi tu n'édites pas? Et puis mes amis aussi sur Facebook, c'est très important ces amis-là, avec leurs commentaires, leur encouragement.
En tout cas, vous en servez bien Facebook parce que c'est pas tout le temps le cas.
Oui, oui, mais il faut prendre le côté positif de la technologie, parce que moi Facebook c'est une façon à moi d'exprimer nos inquiétudes, et c'est là qu'on m'a contacté. Vous venez tout à l'heure de parler de mépris à Narbonne, les responsables culturels français, ils s'adressent à moi par Facebook, par Messenger, c'est là où ils m'appellent.
Donc vous n'avez jamais envoyé vos poésies, c'est en les lisant sur Facebook qu'on vous a contacté.
C'est ça, c'est en me découvrant sur Facebook que les responsables culturels en France, à Narbonne ou à Pau ou à Perpignan, qui m'ont contacté par Messenger pour me dire, voilà madame, vous nous envoyez votre poésie, on va la faire dans les concours, et j'ai toujours eu le premier prix.
Vous ne connaissiez personne dans ce milieu-là, les milieux littéraires?
Du tout.
Quelle belle histoire.
Sur Facebook.
Que sur Facebook, c'est très bien, comme quoi, en tout cas, ça peut servir à se faire connaître et à connaître sa poésie. Est-ce que vous attendiez un tel succès de votre poésie? Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous allez justement dans ces concours de poésie? Qu'est-ce qu'on dit de votre poésie?
Donc, sans me vanter, Saria, moi, j'ai étudié littérature française. Et donc, je suis à jour. Enfin, je connais la rythmique, la rimique, la poésie, les vers, les alexandrins, les sonnets.
Vous connaissez les règles, disons.
Je connais les règles de la poésie française.
On peut connaître les règles et ne pas...
En plus,
bien
quand on a à avoir le don, l'écriture, et donc j'ai marié les deux et ça a marché.
Mais voilà. La poésie, est-ce que c'est de l'écriture ou est-ce qu'elle est dans la tête?
Ma
c'est
poésie,
des mots qui sortent du fond de son âme.
Je vais te dire franchement, moi je me découvre à travers ma poésie. Il y a une muse qui vient, qui me dicte le poème, et je me découvre qu'après avoir terminé mon poème, je le relis, je me dis, attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Je vais écrire des bises avant de partager sur Facebook. Je me relis et je me dis, c'est pas moi qui ai écrit ça.
C'est pas comme un romancier, par exemple, qui doit construire son histoire, qui doit faire une enquête, qui écrit. Quand vous écrivez, vous contrôlez rien, d'après ce qu'on a compris.
Du tout. Je me découvre. Quand je termine mon poème, je me découvre. Je découvre en même temps que vous. Et donc c'est pour ça que je le relis, j'essaye un petit peu de faire un petit travail esthétique sur la rime, sur quelques mots, je fais de la censure en vis-à-vis de moi-même. Mais sinon ça vient comme ça, c'est différent.
Mais à quel moment ça vient ?
En général, moi ça me vient le matin tôt, le matin.
Oui, mais est-ce qu'il y a des circonstances ? Est-ce qu'il y a quand c'est des choses qui vous touchent ou alors vous faites un rêve et vous vous levez le matin ?
Les deux.
Vous vous êtes rempli de
mots ? Il y a les deux. Il y a des poèmes que je rêve, dès que je rêve, enfin je fais un rêve et si je ne l'écris pas, il va disparaître. Mais il y a des poèmes qui viennent juste après des circonstances où je suis touchée. Par exemple, si vous voyez dans mon dernier recueil « Chant de femme » ou bien « Femme au front tatoué », vous allez trouver de la poésie sur la femme lorsqu'on a, à El Fouara, lorsqu'on s'est attaqué à la statue. Là, j'ai écrit un poème. Du temps du choléra, j'ai écrit un poème. Donc, il y a de la poésie circonstancielle, mais il y a aussi de la poésie qui vient comme ça. C'est... le poète est très sensible. Mmh. Et moi, j'ai l'impression que on a une double vie. En même temps, il y a une vie de Keltoum Defosse, la maman de quatre enfants, la fait chef d'entreprise, mais il y a un Keltoum Defosse qui est poétesse et qui essaye de transmettre toutes les inquiétudes des femmes.
Et qui est en train de vivre pleinement aujourd'hui sa vie de poétesse.
Eh ben, oui.
Keltoum Defosse, vous restez avec nous. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé. Vous le décrivez si bien. En plus, je crois que c'est un ami qui dit qu'il y a de la rusticité dans vos poèmes parce que vous avez été imprégnée par votre vie de petite fille qui gardait les petites chèvres. Donc ce village-là, c'est... tout le monde a peut-être une histoire de village. Alors nous allons vous emmener avec Linda Tebaili, qui est dans sa rubrique patrimoine, nous fait aussi découvrir des fois le patrimoine pastoral, les histoires des tribus et les histoires de toute cette culture qui s'invente dans ces tribus, dans ces vies de village. Et elle va nous emmener du côté du Warsenis à la rencontre de la Kabila Meknessa.
La République des Arts, patrimoine.
Linda, bonjour.
Bonjour Touraya. Un plaisir de se retrouver.
Eh ben voilà, on se retrouve la quatrième saison. Vous y étiez depuis le début et j'espère que vous resterez parmi nous. Alors Linda, justement, tout à l'heure, on a eu une conversation. Vous avez sillonné la région de Mila.
De Mila, effectivement. Oui, je connais très bien la région de Mila.
Eh ben, ça tombe bien.
Djinan El Beylek, El Gelaleh, mais
Hasnia, le barrage de Bni Haroun, le grand barrage de Bni Haroun.
Le joli, hein.
Ah oui.
Très joli.
Les collines qui surplombent le barrage. Qui est la terre de mes aînés, que je chante tout le temps dans ma poésie.
Laïberg.
Magnifique.
Alors, qui sont-ils, cette Kabila de Meknessa?
Ben justement, c'est un auteur qui a écrit un livre d'histoire sur... l'histoire sur l'Algérie, l'intention c'était de faire découvrir une tribu du Warsenis. Il s'agit des Meknessa de l'Warsenis. Une histoire qui ravive un tout petit peu notre mémoire, car elle nous pousse à se poser plein de questions. Justement, les Meknessa, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Quel est le lien avec la ville marocaine Meknes? Et quel est aussi le lien avec Tiaret? Des questions qui ont tourmenté pratiquement l'enfance de Nordine Ben Amara, qui est auteur justement de l'ouvrage Les Meknessa du Warsenis. Et justement, à travers cet ouvrage, il nous fait découvrir le patrimoine à travers justement la découverte de l'histoire de la Kabila de Meknessa. Justement, il partage avec nous cette découverte et cette recherche, et on l'écoute.
Les Meknessa ont été d'abord les compagnons de Firmus, qui a combattu les Romains, effectivement, dans cette région-là. Et déjà, Charles-André Julien parle des Meknessa qui étaient les compagnons de Firmus quand ils ont combattu les Romains à cette époque. Et dès que les Romains sont partis, les Meknessa, avec d'autres tribus de l'Ouarsenis, ont pris possession de Tingartia, qui était effectivement la ville qui se trouve, qui est sur le lieu de Tiaret aujourd'hui. Tingartia, qui était une ville romaine, une ville garnison. pour surveiller à la fois le sud et l'Ouarsonis. Quand ils ont pris Tingartia, les tribus de l'Ouarsonis au départ des Romains, en 430, ils l'ont prise comme capitale de leur royaume, le royaume de l'Ouarsonis. Et les Meknassa faisaient partie de ceux qui ont mis en place ce royaume. Et voilà que le royaume des Djedar, que l'Afrique du Nord, parce que ce royaume a duré depuis le 5e jusqu'au 7e siècle, et il s'est étendu sur une bonne partie de l'Algérie, jusqu'aux frontières de l'Aurès, où il y avait un autre royaume, qui était le royaume de l'Aurès. Et à la venue des Omeyyades, au 7e siècle, le royaume de l'Aurès s'est allié au royaume de l'Ouarsonis pour faire face aux Omeyyades. Et les Meknassa, et là j'ai trouvé des sources extraordinaires, chez Ibn Khaldoun, et qui me fait retrouver le nom des Meknassa dans cette aventure, dans cette lutte contre les Omeyyades en tant qu'envahisseurs. Ce n'est que quand les Berbères se sont saisis du message de l'islam, qu'ils ont ouvert leurs portes à ceux qui venaient un petit peu leur apporter le message. Et dès le moment où les Berbères se sont saisis du message, les Meknassa étaient parmi les tribus qui ont ouvert le Maroc et qui ont ouvert l'Andalousie à l'islam. On le retrouve dans ces pages d'histoire.
La République des Arts.
Donc voilà, une histoire très 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 captivante, aussi intéressante. Et ce sont toutes ces questions qui ont poussé Nourdine à partager justement l'histoire de ses origines, de cette Kabila. Et nous savons très bien, Toraya, que nous, étant jeunes, on se pose toujours des questions sur nos origines. Et si chaque personne se met à écrire justement et à creuser autour de lui, donc notre histoire ne restera jamais ambiguë.
En tout cas, on vous retrouvera comme d'habitude.
C'est juste un avant-goût.
Un avant-goût. On vous retrouve en tout cas cette histoire si vous avez envie de la découvrir et d'en savoir un peu plus. Vous retrouverez Linda Tebaili dans son émission Patrimonium le samedi de 21h à 22h. Merci Linda, restez avec nous. J'ai senti que vous êtes un peu conquise par Kiltoum, hein, qui diffuse de la bonne humeur autour d'elle. Kiltoum qui a envie de nous faire plus découvrir sa poésie, ses poèmes que parler d'elle-même, puisque votre poésie parle pour vous. Il y a un poème que vous avez envie de...
J'ai déjà lu le poème qui parle de moi, de mon prénom, de ma richesse culturelle, berbérité, arabité, et tout ça. Et maintenant, je vais juste vous lire le poème qui a été primé tout à l'heure, et ça parle de la femme, bien sûr, à Perpignan, le Jeûne d'or. Donc, je vais vous lire le poème. Donc, le poème qui a été primé, il est extrait de mon recueil de poésie, La femme au front tatoué. Vous remarquez que même les titres de mes recueils sont puisés dans notre patrimoine. La femme à la ceinture de laine, La femme au front tatoué, Destin de femme, La colline des rois berbères. Donc, ce sont les titres de mes recueils de poésie. Et donc, le poème, c'est La braise au creux de la main. Je vais vous lire le poème. Je porte une braise au creux de ma main à toutes les générations qui viennent. Pour que combat de femmes ne soit vain, libre de leur corps fier et souveraine. Je porte la braise au creux de mes débris, usée, mais debout, tête haute qu'on aime, faire entendre gémissements, chants et cris, liberté d'agir, dignité authentique et emblème. Ô douces aînées, grand-mères rebelles, dans votre giron, notre Éden pour l'éternité, vous qui cantez les étoiles dans le ciel, pour que le jour se lève sur notre féminité. Ainsi, ainsi pour braver la routine du quotidien, vous n'avez émis à la vie que l'essentiel. De vos tâches les plus pénibles, je détiens une braise courant à travers rues et ruelles. Je chanterai votre combat, ô noble reine, vous avez tissé de vos doigts, soit Hélène, le burnous d'une tradition des plus anciennes. Votre mémoire sent, elle est sur nos épaules, elle est frêle, pardon, mais bien pleine. Je porte la braise au creux de ma main.
Voilà, poème qui a été primé à Narbonne.
Oui, donc, le Jeûne d'or, c'est un poème qui a eu le Jeûne d'or à Narbonne.
Voilà, quel tour de force, vous savez qu'il y a, récemment, vous avez participé à une rencontre, c'était le 1er septembre dernier, une rencontre qui s'est passée à la Bibliothèque nationale, c'était une rencontre de femmes organisée par le ministère de la Culture qui réunit des femmes venues de la Méditerranée et d'Afrique autour de l'écriture féminine. Vous y avez participé, c'est important pour vous. Il y a aussi cette, la création de ce prix, Yamina Meshakra, et je pense que tout le monde est d'accord sur l'immensité de l'œuvre de Yamina Meshakra. Donc, si vous voulez, on parle de prix, et dans quelques temps, il y aura aussi le prix Mohamed Dib, qui est, comme vous le savez aussi, créé par une association, l'association La Grande Maison. De ces rencontres, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces rencontres?
Alors déjà, on va parler de... J'ai eu deux rencontres essentielles. La première rencontre a eu lieu à Tizi Ouzou et puis la deuxième à la Bibliothèque Nationale. On va parler d'abord de Ramage. Donc Ramage, c'est le rassemblement d'Africains, Maghrébins, de toutes les femmes jeunes et écrivaines. Et c'était des moments très intenses dans lesquels on a rencontré toutes les écrivaines jeunes et moins jeunes, toutes les poétesses algériennes, avec les trois langues arabes, français, amazigh. C'était une belle rencontre qui nous a permis de nous contacter, de nous mettre d'accord pour que voix de femmes soit transmise, au monde entier, pas seulement en Afrique, ni au Maghreb, ni en Algérie, mais au monde entier. Parce que vous avez remarqué que dernièrement, il y a eu beaucoup de poètes, de poétesses, beaucoup d'écrivaines algériennes et qui sont connues, primées. Et d'ailleurs, c'était pour justement célébrer la mémoire de notre écrivaine Yamina Meshakra, comme a dit Kateb Yassine, la femme qui écrit vaut son pesant de poudre. Donc maintenant, on n'a plus besoin de poudre, mais on a besoin de mots pour classer nos mots, pour dénoncer, pour nous battre au quotidien, pour que femmes algériennes soient toujours debout pour se défendre ses droits.
D'ailleurs, à ce propos, j'annonce à nos amis auditeurs, demain s'ils sont là avec nous, et j'espère qu'ils seront là avec nous, nous allons un peu leur rendre compte de cette rencontre qui s'est passée à la Bibliothèque Nationale le 1er septembre dernier. Nous étions, et j'ai réalisé un petit travail autour des femmes qui écrivent sur l'écriture féminine. Qu'est-ce que l'écriture féminine? Y a-t-il une écriture féminine ou y a-t-il une écriture tout simplement? Vous écouterez les participants tout parler de ça. Ça, c'est, je ferme la parenthèse, c'est demain que je vous donne rendez-vous pour ça. Mais pour vous, est-ce qu'il y a une écriture féminine de foot?
Tout à fait. On a de très très belles plumes féminines.
Non, mais est-ce que une femme écrit différemment d'un homme ou si la poésie est la même?
Non, je trouve que c'est qu'on est différent. Non. On est différent. Il y a une plume féminine, il y a une plume masculine. Les femmes écrivent différemment des hommes. Donc, je ne dis pas mieux, je ne dis pas moins, mais elles vaut autant que l'homme. Donc, on écrit, mais on écrit notre féminité aussi. Parce que l'écriture, elle vient de l'âme. Et une âme d'un homme n'est pas celle de les inquiétudes ne sont pas les mêmes, les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc, les plumes des femmes sont différentes des hommes.
Donc ça, c'était, on a parlé donc de cette première rencontre, les Ramages. Oui. On va évidemment respirer un tout petit peu, écouter de la musique et on revient à votre poésie. Et nous nous excusons auprès de nos jeunes de Tlemcen. Je crois qu'on n'aura pas le temps de diffuser le reportage. Nous aurons évidemment dans les prochains jours, on le fera. Il est 16h43 et on vous laisse surtout à vous le temps pour parler de votre écriture.
Siempre estoy, dime para qué te lloro cada madrugada. Pensando en ti, busco inspiración para enamorarte y tu recuerdo se me escapa. Un acorde que he robado, y de la palabra. Pensando en ti como siempre estoy, cuando me enamoro siempre pierdo la partida. Pensando en ti en mi habitación, que huele a tabaco, a perdedor y a despedida. canción. Si será tarde para luego, así es el juego del amor. Siempre se pierde la ocasión. Yo la perdí pensando en ti.
République des Arts, ça continue jusqu'à 17h. Quel tombe de fou, c'est aujourd'hui notre invitée, poétesse à l'âme sensible, mais qui, à travers sa poésie, elle chante, elle raconte les femmes dans leur combat de tous les jours, les femmes ordinaires, les femmes guerrières, les femmes d'antan et d'aujourd'hui. Quel tombe de fou, pour revenir aux rencontres, vos dernières manifestations, donc on a parlé de ramage, c'était donc le 1er septembre et 2 septembre dernier, c'était même si la présence étrangère des femmes qui devaient venir de la Méditerranée et d'Afrique, enfin il y a eu quelques petits soucis, donc elles n'étaient pas là, mais c'était pour vous, femmes écrivaines algériennes, c'était important de vous rencontrer et de d'échanger.
Tout à fait.
Il y a eu aussi une manifestation auquel vous tenez, vous avez vécu intensément. C'était le 30, le 31 et le 1er septembre dernier aussi.
Oui.
Donc, hein, ça s'est chevauché avec ramage. Et ça s'est passé dans un petit village de Boudjlil, du côté de l'Ebaï Nitaliten, du côté de Tizi Ouzou. Et ça, c'était le premier festival l'été en poésie et musique organisé par l'inénarrable Melek Amerouche.
Oui, on tient à remercier par cette émission Monsieur Amerouche Melek, parce que je lui ai dit c'était un you-you dont l'écho a fait vibrer toute la belle Algérie. Du moment où on parlait de la femme, il y avait ces femmes.
Racontez-nous cette ambiance particulière. Là, c'était dans un petit village.
Donc le festival de la poésie était au village de Boudjlil Ayrjen, des hauteurs à Tizi Ouzou, et là il y avait des femmes, il y avait des hommes qui étaient là debout pour nous encadrer, pour nous encourager. C'était des soirées de poésie, des soirées musicales, c'était exceptionnel. Et là, c'était une contrée de bonheur qu'on a vécu pendant ces deux jours avec Monsieur Melek Amerouche.
Alors, bébé, racontez-nous un peu comment les gens du village vous ont accueilli et qu'ils ont été partenaires de cette manifestation.
Tout le village était mobilisé pour ce festival de poésie. Et les femmes, et les hommes, et les jeunes, et même les enfants. C'était c'était une fête au village, et tous les poètes, et on était nombreux et nombreux. Beaucoup
et
de poétesses, des chanteuses, c'était une fête, et tout le village était là, et moi j'étais éblouie, j'étais vraiment.
Et les femmes vous ont.
Oui, les femmes nous ont reçues avec leurs belles gondouras berbères, leurs bijoux, avec des beignets, avec des figues. Et c'était exceptionnel, c'était indescriptible. D'ailleurs, j'ai écrit un petit poème avant de partir sur Tizi Ouzou et je me dis. Ah, ce poème ne peut pas refléter la beauté de cette manifestation, parce que moi, quand j'écris le poème, j'étais en route vers Tizi Ouzou, et puis après, quand je suis passée au village, je me dis, c'est pas incroyable, je veux lire juste juste un petit poème en dédicace à Malekam Rouche, à Memrouche et à tous les gens du village. J'ai appelé ce poème la fleur de vie Matizi Ouzou. On a voulu m'étouffer à l'œuf, mais mes mots brodés de mes doigts ont osé tout mettre à neuf, à l'envers, souvent sauf quelquefois. Quand les rangs sont trop serrés, que les mailles coulées me noient, je laisse les fils et les chaînes errer, mais sans jamais quitter ma voix. Fibre d'amour, laissée au bas chemin, au milieu de leur table, je fus bien servie. Dès l'aube, je savais qu'il était bien loin, ce temps qui console et qui aide ma survie. Il fallait m'enterrer. Moi, je parle ici de notre culture, de notre berbérité, de notre arabité, de notre amazirité. Il fallait m'enterrer dans ma terre et laisser mes racines tout enfant. Une fleur sauvage mise en serre fleurira un jour et rira de ses tréfonds. Femme, as-tu saisi la vraie raison de ces voiles qui te cachent derrière? Tu fleuriras à toutes les saisons et tes épines vainqueront la terre entière. Tu seras pré et prairie verdoyant. Tu seras cri langoureux à tous les temps. Reine des neiges et des déserts flamboyants, amenu, emporté par tous les vents, du nord au sud, couché de soleil et le vent, de l'est à l'ouest, dans ta cour berçant, tes traces de pas, derrière et même devant, des horizons fleuris, aucun regard menaçant. Je parle de ma culture qui est fleur, des moissons. Voilà.
C'est très très joli tout ça. On est presque à la fin de l'émission, il est 16h52, le temps passe très très vite avec vous.
Déjà.
De fou, c'était ça. On a un peu découvert, mais on conseille en tout cas à nos amis auditeurs, ceux qui nous écoutent, qui sont en train de nous suivre, s'ils veulent découvrir votre poésie, on peut la trouver, hein, les recueils, on peut les trouver dans toutes les librairies.
Il y a Voix de femmes qui se trouve dans toutes les librairies qui est éditée par ANEP, mais tous les autres recueils sont édités en France, mais ils peuvent les trouver sur les réseaux Amazon, Fnac. Donc il y a une distribution universelle de mes recueils. Voilà. D'ailleurs,
La colline des rois berbères, oui. Fleuve du paradis, La femme à la ceinture de laine, Rêve de toute femme, Grain de sable et Pauvre petit frère. Voilà, ça c'est les recueils de Keltoum Defous. Voilà, on termine en poésie. Il nous reste encore combien de temps? Il nous reste 1 minute.
Alors je voudrais juste lire un poème parce que je l'ai promis à ma petite fille qui venait de naître. C'est-à-dire qu'ils viennent de naître au mois de mai. Je l'ai écrit pour ma petite fille, mais ça parle de toutes les petites filles d'Algérie.
Allez, on écoute.
À ma petite fille Maya. Elle s'appelle Maya, ma petite fille. Tu es ma bataille, jour après jour. Ma vie, une réminiscence d'amour. Mes sens sont à toi pour toujours. Et je revis à travers toi à mon tour. Ma folie et ma grande sagesse. Tout mon langage qui te berce, sur soi des Indes et tapis perse, sur mon cœur il pleut d'averse. Flèche de Cupidon, mes amours, tout mon île et ses troubadours, le soleil, la lune, les étoiles autour, planète de mon silence de sourd. Tu es mes rêves et mon envol, sur ma tête, sur mes deux épaules, sur mes genoux, mon dos au sol, mon diadème et ma camisole. Le plus brûlant de mes poèmes, à toi, mes errances, ma bohème, mes talismans et mon totem, mon petit grain sacré, je sème, mon sacré grain qui a vite fleuri, au bout de terre, mon bout de ciel, mon soleil, mon lever du jour infini, mon grain de folie, mon grain de sel, mon bout de destin, mon long cri, mes moments intimes et mes hystéries, mon coffre-fort, mon bijou, mon écrin, dans mon giron, même loin je te tiens, ma petite fille Maya.
Ça fait partie du recueil qui sortira dans...
C'est Chant de femme, je l'ai déposé pour ANEP, je ne sais pas s'ils vont accepter l'édition, et je l'ai déposé aussi au ministère de la Culture.
Merci beaucoup Keltoum Defous, j'espère en tout cas qu'on vous a régalé avec la poésie... Ça donne toujours, voilà, la chanson en Maya d'ailleurs, hein, c'est voilà. Notre cadeau à vous. L'émission a été réalisée par Abdelrani Boudelies. On vous laisse dans un petit instant avec la rédaction sportive Mohamed Tchoubou au micro, Melskal Chaben également avec Mohamed Tchoubou et la réalisation Fouad Hamadi pour les championnats, la suite des matchs d'hier.
Juste un petit mot, je tiens quand même à remercier tous mes amis Facebook qui m'encouragent. Je tiens aussi à remercier toute ma petite famille Bounah, mes enfants, mon mari et tout le monde. Voilà.
Allez, au revoir.
Merci.
Et à demain.
Au revoir.
maestro.